L'Éden de Satan numéro 99. Le processus de résurrection. Le 9 avril 2023. Brian Kozurek. Pasteur. Éphésiens 2.1. Vous avez été vivifiés. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, par grâce que vous êtes sauvés. 6. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, le levé du Fils 71, son égal Fils, son égal Soleil, en anglais, ces deux mots ont le même son, note du trad. 192. Maintenant regardez. Avez été vivifié. Vous qui autrefois étiez morts par votre péché et par vos offenses, et dans les ténèbres, il vous a vivifié. Par quoi? Son esprit qui a ressuscité Jésus, le matin de Pâques, tiré d'entre les morts. Et s'il habite dans vos corps mortels, regardez bien. Là, il vivifie ceux-ci aussi, leur rend la vie, les assujettit à la parole. Maintenant, comment pouvez-vous prétendre avoir cet esprit, et vous détourner de la parole? Vous êtes vivifié par quelque chose d'autre. Car lui, il vivifiera vos corps mortels à la parole. Certainement qu'il le fera. Vous, Néhémie, pouvez pas avancer sans lui. Vous, Néhémie, ferez que bafouiller, si vous, Néhémie, la croyez pas toute. Si vous avez en partie de l'essence et en partie de l'eau, vous n'irez nulle part. Voyez? Vous devez prendre de l'essence à 100%. Sinon, vous avez des ratés, et vous n'avez aucune puissance. Voyez? Mais je crois ceci, mais je n'y crois pas cela. Pout 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 pout. Vous n'allez nulle part. Mais, oh, quand vous prenez la plénitude, que l'allumage se fait là-dessus, chaque parole est la vérité. 72. Alors, remarquez, maintenant, en terminant, remarquez ceci. Remarquez, tout comme une petite semence qui repose dans la terre. 197. Maintenant, potentiellement, vous êtes ressuscité. Vous êtes ressuscité quand vous recevez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes ressuscité à ce moment-là. Votre corps est potentiellement ressuscité. Je veux que vous remarquiez ce que frère Branham vient de dire ici. Il a dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous ressuscitez à ce moment-là, puis il ajoute votre corps est potentiellement ressuscité. Remarquez la différence entre ces deux choses qu'il vient de dire, parce qu'il dit que vous êtes ressuscité, mais que votre corps n'est que potentiellement ressuscité. Maintenant, le mot potentiel signifie capable d'être ou de devenir, mais Néhémie pas encore matérialisé. En d'autres termes, il en est capable à ce moment-là, mais il n'est pas encore ressuscité. Il y a donc deux choses qui vous arrivent concrètement lorsque vous naissez de nouveau. Numéro 1, votre âme est vivifiée et rendue vivante à la vie éternelle. Et, numéro 2, votre corps est vivifié et rendu vivant à la vie éternelle de l'âme de la semence gène de Dieu. Maintenant, je n'ai veux pas paraître trop profond ici, donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque votre âme est vivifiée par l'Esprit de Dieu entre en vous, non seulement cela vivifie cette semence gène de Dieu dans votre âme, Mais cela amène aussi votre corps à prendre conscience que son esprit vit et demeure maintenant dans le tabernacle de votre chair. L'apôtre Paul le dit de la meilleure façon, quand il déclare dans Romains 8.11 « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il parle de l'esprit de Dieu ? Donc si l'esprit de Dieu habite en vous, celui, Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, l'esprit de Dieu, qui habite en vous. » Donc, la vivification n'est-elle pas une chose ponctuelle ? C'est-elle une chose continuelle ? Parce que Paul parle de la vivification ou de venir à la vie qui se fait par son esprit, l'esprit de Dieu, qui demeure en vous. Alors, je voudrais vous dire ceci. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ce processus, parce que votre corps est fonctionnel. Il s'adapte à l'usage qu'on en fait. Mais ce processus de changement est si progressif, que vous n'en êtes pas conscient. Mais moi, je le suis, à cause de mon AVC. Vous vous améliorez petit à petit un muscle à la fois. Vos progrès sont si infimes que les gens Néhémie peuvent vous regarder extérieurement et vous voir comme complètement changé. Mais, vous vous regardez et vous savez que vous êtes un ouvrage en progression. Et à chaque réveil, vous vous réveillez et sentez que cette étincelle de vie œuvre maintenant là où, autrefois, elle n'œuvrait pas. Laissez-moi lire cela dans la nouvelle version internationale. NIF. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous ressuscitera aussi à cause de son esprit qui vit en vous. Laissez-moi le lire dans une autre version appelée la Bible du Message 9-11 Messie, et rappelez-vous que c'est un grand si. Parce que si Dieu n'est pas en vous, alors vous n'aimez lui appartenez pas. Mais Paul dit, mais si Dieu lui-même est le domicile dans votre vie, vous pouvez difficilement penser plus à vous-même qu'à lui. Maintenant, c'est une déclaration très vraie, parce que si Dieu qui est un être surnaturel, et dont la vie est surnaturelle par nature, et Dieu qui, par sa nature même, est un être surnaturel, si en fait sa vie entre dans votre vase et est le domicile dans votre vase, alors comment pouvez-vous n'aimer pas le savoir? En tant que patient victime d'un AVC, comment pouvez-vous n'aimer pas savoir quand votre synapse commence à transmettre, alors qu'elle n'aimait, transmettait pas avant? J'étais paralysé, je n'aimais, pouvais pas bouger mon pied droit et ma main droite. Je leur donnais l'ordre de bouger dans mon cerveau, mais je n'avais aucune réaction. Tout comme nous l'avons fait quand nous sommes nés de nouveau. Nous savions mieux dans nos pensées parce que la parole le disait, mais notre corps Néhémie réagissait pas comme il le fait, maintenant après des années de soumission à sa parole. Mais maintenant, vous êtes capable de vivre victorieux, comme si vous l'aviez toujours fait. Mais ayant eu un accident vasculaire cérébral, je sais quand la synapse commence à transmettre parce que mes mains fonctionnent et que je marche. Pourtant, il n'émitira pas aussi rapidement qu'auparavant. Alors vous pouvez n'émit pas le reconnaître. Mais moi si. Puis Paul poursuit, quiconque n'a pas accueilli ce Dieu invisible mais clairement présent. L'Esprit de Christ. N'émit saura pas de quoi nous parlons. Et je crains que cette déclaration Néhémie soit très inclusive pour la plupart des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais qui Néhémie sont en réalité que des pratiquants. Et maintenant je sais exactement de quoi il parle. En d'autres termes, vous allez très certainement savoir si et quand Dieu a élu domicile en vous. C'est ce que signifie le mot révélation, une manifestation de la vérité divine. Alors, comment Néhémie le saurez-vous pas? Et vous saurez très certainement si vous avez offensé son esprit car son esprit s'éloigne de vous jusqu'à ce que vous soyez rétabli par le repentir. Et puis cet apôtre poursuit, mais pour vous, qui l'accueillez, en qui il demeure, même si vous éprouvez encore toutes les limitations du péché, c'est parce que votre corps n'est pas encore ressuscité en réalité et en totalité, mais des parties de vous, de votre esprit et de votre âme, sont ressuscitées. Votre corps est seulement potentiellement ressuscité, ce qui signifie que votre corps n'est conscient de la vie de la résurrection vivant en vous. Mais le vase lui-même n'a pas encore été changé en tant qu'un vase immortel. Néhémie connaissant pas la mort. Alors Paul dit, mais pour vous qui l'accueillez, en qui l'habite, même si vous éprouvez encore toutes les limitations du péché, vous-même, vous faites l'expérience de la vie selon les termes de Dieu. Il va de soi, n'est-ce pas, que si le Dieu vivant est présent, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts entre dans votre vie, il fera la même chose en vous qu'il a faite en Jésus, vous vivifiant à lui-même. C'est comme si votre synapse se déclenchait et que vous pouvez maintenant utiliser cette partie que vous n'aimiez, pouviez pas utiliser auparavant. C'est comme quand vous êtes assis là dans une tempête, sans savoir quoi faire et il vous dit de vous lever et de prendre la réunion en main. Et vous pensez dans votre esprit, comment puis-je prendre les choses en main quand il y a une tempête aussi énorme? Et il dit, commence simplement par aller à la chair et avant que votre jambe gauche n'ait mis s'engage, vous voyez une vision mentale de Jésus endormi dans le bateau se levant et disant, silence. Tais-toi. Et puis, avant que votre jambe droite n'ait mis s'engage pour avancer vers la chair, vous voyez notre vision mentale de William Branham courant autour de l'arbre et l'écureuil qui lui égosillait dessus après que la tempête se soit arrêtée à sa parole. Ensuite, vous savez que la synapse s'enclenche et que c'est Dieu qui œuvre en vous de vouloir et de faire. Ce que Paul dit ici, c'est que si Dieu, qui est surnaturel, est venu dans votre vase mortel et a établi sa demeure dans votre vase mortel, alors vous, Néhémie, pouvez pas vous empêcher de le voir faire les mêmes choses dans et à travers votre vase mortel qu'il a fait dans le vase mortel de son fils premier-né. Par conséquent, votre observation de la vie surnaturelle, qui se manifeste et se projette dans et à travers votre vase mortel, vous vivifie à lui, et sa nature s'exprime en vous et à travers vous. Maintenant, continuons avec ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Remarquez qu'il le rend si clair, que vous devriez être très lourdeux dans votre âme pour n'aimer pas comprendre ce qu'il dit. Paul poursuit, quand Dieu vit respirer en vous. Ce n'est pas la première fois que les Écritures parlent de Dieu vivant et respirant dans votre vase. En d'autres termes, quand Dieu réside dans votre vase, alors chaque respiration que vous prenez, c'est Dieu qui respire pour vous. Et vous prenez conscience que c'est aussi Dieu qui vit votre vie pour vous. Et Dieu qui respire pour vous est sûrement aussi réel pour vous, que vous êtes conscient de votre défaut dans votre corps. Tout comme le fait d'avoir eu cet AVC me rend plus conscient de ce que Dieu fait dont je n'étais pas conscient auparavant. Puis, quand vous êtes infirme dans votre corps, Dieu fait l'expérience de votre infirmité. Donc, quand vous avez un AVC, Dieu sait tout à ce sujet. Nous lisons dans Actes 17.28, car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Et nous voyons aussi l'apôtre Paul parler de la même chose dans 1 Corinthiens 6.19. Néhémie, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'aimez vous appartenez point à vous-même? En d'autres termes, si vraiment Dieu habite en vous, alors il a fait de vous son tabernacle, son temple, son vase pour y vivre, et puisque Dieu a pris le contrôle de votre temple, votre vase, vous n'aimez le posséder plus. Il en est propriétaire. Et il a pris le contrôle de votre temple, donc vous n'avez vraiment plus votre mot à dire sur ce qu'il faut en faire. Même l'apôtre Pierre a parlé en termes de votre corps étant la maison de Dieu. Nous parlons donc ici de termes immobiliers. Maintenant, puisque l'apôtre Paul utilise des mots comme temple et que Pierre utilise le terme de maison en se référant à votre corps, alors examinons le droit immobilier pour mieux comprendre ce qu'il nous dit ici. Maintenant, il y a une vieille expression qui dit, la possession, c'est 99% de la loi. Mais 99% avec Dieu, ce n'est pas satisfaisant. Ainsi, la loi immobilière se lit comme suit, lorsque vous transférez le titre de propriété de votre maison à une autre, que ce soit par le biais d'une vente ou d'un don, lorsque le titre de propriété est transféré, vous, le premier propriétaire, n'avez plus votre mot à dire sur ce bien. S'ils veulent modifier la maison, c'est à eux de décider. Pas à vous. Il n'est mais vous appartient tout simplement plus. Il appartient à celui qui détient maintenant le titre de propriété. Et nous avons été achetés à un coût considérable. Et nous sommes à lui. Notre corps lui appartient. Et l'apôtre Paul aborde ce fait dans 1 Corinthiens 3.17 « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Vous Néhémie pouvez donc pas simplement faire ce que vous voulez avec des biens qui Néhémie vous appartiennent plus. C'est pourquoi, lorsque j'entends des gens dire des choses comme « Nous n'avons pas à faire les œuvres de Christ », Frère Branham a fait les œuvres de Christ et nous comptons là-dessus. Quand j'entends quelqu'un parler de cette façon, cela me dit simplement que cette personne n'a pas le Dieu surnaturel qui vit et respire en elle et qu'elle n'a aucune idée de ce dont nous parlons, parce qu'elle n'a pas Dieu en elle. Martin Luther a dit, dans son étude sur le livre des Romains, ce qui suit, la foi, cependant, est une œuvre divine en nous. Elle nous change et nous fait naître de nouveau de Dieu. Elle tue le vieil Adam et fait des hommes complètement différents. De cœur, d'esprit, de pensée et de force. Et elle apporte avec elle le Saint-Esprit. Oh! C'est une chose vivante, occupée, active, puissante. Cette foi, et lui est donc impossible de Néhémie pas faire sans cesse de bonnes œuvres. Elle Néhémie demande pas s'il y a de bonnes œuvres à faire, mais avant que la question Néhémie se pose, il les a déjà faites, et elle est toujours disposée à les faire. Celui qui Néhémie fait pas ses œuvres est un homme sans foi. Il tâtonne et tourne autour de la foi et des bonnes œuvres. Et Néhémie sait ni ce qu'est la foi ni ce que sont les bonnes œuvres, bien qu'il parle et parle, avec beaucoup de mots, de la foi et des bonnes œuvres. Comme nous avons parlé de l'amour parfait il y a quelques semaines, Dieu est amour, et si Dieu vit votre vie en vous, vous Néhémie pouvez pas vous en empêcher. Vous ferez simplement ce qu'il ferait sans que personne Néhémie vous demande de faire ces choses. En fait, cela me dit que cette personne qui compte sur quelqu'un d'autre pour faire ses choses à sa place, non seulement elle Néhémie comprend pas la doctrine de Christ, mais elle Néhémie fait pas écho à ce que Dieu a dit, ni à ce que le Fils de Dieu a dit. Et il n'a certainement pas l'amour parfait. 1 Jean 5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu a fait écho à ce témoignage en lui-même. Celui qui Néhémie croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il Néhémie croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a fait écho du le Fils à la vie. Celui qui n'a pas Néhémie fait pas l'écho du le Fils de Dieu n'a pas Néhémie fait pas l'écho à la vie. Donc, si Dieu a formellement élu domicile et est vivant en vous, alors vous commencerez à vivre comme il vit. C'est le but même de Dieu vivant en vous par sa parole. Car il est la parole. Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait mis périsse point, mais qu'il ait face les koa, la vie éternelle. L'apôtre Jean nous a dit, dans 2 Jean 1.9, quiconque va au-delà des limites, et Néhémie reste pas dans la doctrine de Christ, Néhémie fait pas écho à Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, fait écho à la foi au Père et au Fils. Et comment savons-nous vraiment que nous faisons écho au Père et au Fils? Parce que notre vie fera aussi écho à leur vie. C'est-à-dire pourquoi Jésus Néhémie pouvait faire que ce que le Père faisait, et vous aussi. Il était un écho dans sa vie de ce que le Père faisait. Esther Jean 5.19 et Jean 5.30. Maintenant, vous Néhémie pouvez pas contourner ce que la Bible nous dit ici. Celui qui fait écho au Fils fait écho à sa vie. Et comment allez-vous faire écho à sa vie si sa vie Néhémie vit pas en vous pour refléter ou faire écho à sa vie? Maintenant, revenons à ce que Paul disait dans Romains 8.11 dans la version Le Message. Quand Dieu vit respire en vous et il le fait, aussi sûrement qu'il l'a fait en Jésus, vous êtes délivré de cette vie de mort. Avec son esprit vivant en vous, votre corps sera aussi vivant que celui de Christ. Et lisons une autre version de la Bible. Romains 8.11 La voix, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit à l'intérieur de vous, alors vous pouvez être sûr que celui qui l'a ressuscité projettera la lumière de la vie dans votre corps mortel par la puissance vivifiante de l'Esprit qui réside en vous. Maintenant, remarquez que Paul dit, quand Dieu vit respire en vous et il le fait, aussi sûrement qu'il l'a fait en Jésus, vous êtes délivré de cette vie de mort. Et ensuite avec son esprit vivant en vous, votre corps sera aussi vivant que celui de Christ. Alors Paul a dit, quand Dieu vit en vous, vous êtes délivré de cette vie de mort. Pourquoi? Parce que vous êtes ressuscité. Maintenant, que vous soyez ressuscité dans l'âme, ou avant que vous soyez vivifié à cet esprit de la résurrection de Christ vivant en vous, vous avez toujours le même corps. Mais votre corps n'est-ce pas ce que vous êtes? C'est-ce seulement le vase qui abrite ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est-à-dire votre âme et votre esprit. Votre esprit est-à-dire la vie, par laquelle vous vivez, et votre âme est-à-dire la nature de cet esprit ou de cette vie. Et quand vous êtes né de nouveau, votre âme est-à-dire vivifiée par l'esprit de Dieu, et la nature de son esprit, sa vie vient en vous et vous élève et vivifie ou donne vie à votre âme et lui permet de s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais votre corps n'est-il pas encore ressuscité? Vous êtes toujours dans le corps de cette mort comme Paul l'appelle dans Romains 7. Sinon, un accident vasculaire cérébral Néhémie m'aurait pas affecté dans mon corps. Mais c'est-il le cas? Romains 7.5, car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Si mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, continuons à lire ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans Romains 7. Romains 7.14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 15 Car je n'ai mis, permet pas ce que je fais, je n'ai mis fait point ce que je veux, et je fais ce que je hais. 16 Or, si je fais ce que je n'ai mis veut pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17 Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. 18 Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 19 Car je n'ai mis fait pas le bien que je veux, et je fais le mal à qui que je n'ai mis veut pas. 20 Si je fais ce que je n'ai mis veut pas, Ce n'est-ce plus moi qui le fais? C'est-ce le péché qui habite en moi? 21 Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal qui est attaché à moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. 23 Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 24 Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. 25 Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Permettez-moi de lire ceci à partir de la version Le Message. 14-16 Je peux anticiper la réponse qui vient, je sais que tous les commandements de Dieu sont spirituels. Mais moi, je n'ai aimé le suis pas. N'est-ce pas aussi votre expérience? Oui. Je suis plein de moi-même. Après tout, j'ai passé beaucoup de temps dans la prison du péché. Ce que je n'ai mis, comprends pas de moi-même. C'est-à-dire que je dessine d'une façon, mais ensuite j'agis d'une autre, en faisant des choses que je méprise absolument. Donc, si on est mis peut pas me faire confiance pour comprendre ce qui est le mieux pour moi-même et ensuite le faire. Il devient évident que le commandement de Dieu est nécessaire. 17-20 Mais j'ai besoin de quelque chose de plus. Car si je connais la loi mais que je n'ai mis, peut toujours pas l'observer. Et si la puissance du péché en moi continue de saboter mes meilleures intentions, j'ai évidemment besoin d'aide. Je me rends compte que je n'ai pas ce qu'il faut. Je peux le vouloir, mais je n'ai mis peut pas le faire. Je décide de faire le bien, mais je n'ai aimé le fait pas vraiment. Je décide de n'ai aimé pas faire le mal à qui, mais je le fais quand même. Mes décisions, telles qu'elles sont, n'aboutissent pas à des actions. Quelque chose à mal à qui tourne au fond de moi et prend le dessus sur moi à chaque fois. Cela ressemble à une victime d'AVC, n'est-ce pas? Vous essayez de le faire. Mais vous n'y pouvez pas le faire. 21-23 Cela arrive si régulièrement que c'est prévisible. Au moment où je décide de faire le bien, le péché est là pour me faire trébucher. Je me réjouis vraiment des commandements de Dieu, mais il est assez évident que tout de moi n'y se joint pas à ce plaisir. Certaines parties de moi se rebellent secrètement, et juste au moment où je m'y attends le moins, elles prennent les choses en main. 24 J'ai tout essayé et rien n'y fait. Je suis au bout du rouleau. N'y a-t-il personne qui puisse faire quoi que ce soit pour moi? N'est-ce pas la vraie question? 25 La réponse. Dieu merci. Est-ce que Jésus-Christ peut le faire? Il a agi pour arranger les choses dans cette vie de contradiction où je veux servir Dieu de tout mon cœur et de tout mon esprit, mais je suis attiré par l'influence du péché pour faire quelque chose de totalement différent. Maintenant, dans Romains 7.14, Paul nous dit, la loi est spirituelle, et si elle est spirituelle, ce n'est pas pour la chair, car si c'était pour la chair, alors on pourrait s'attendre à ce que nous accomplissions la loi par notre chair, mais puisqu'elle est spirituelle et non pour la chair, alors la chair n'est peut en aucun cas l'accomplir. Par conséquent, Dieu n'est regarde pas votre chair mais les désirs de votre cœur, et donc bien que vos désirs puissent être justes et saints, votre corps peut rétrograder plusieurs fois par jour en raison de sa nature mélangée à cause de la transgression d'Ève. Maintenant, frère Branham nous a dit à plusieurs endroits que Dieu ne viendra pas dans votre cœur pour le remplir de son esprit, tant que les désirs n'auront pas été changés. Maintenant, vous devez d'abord recevoir une nouvelle compréhension, puis un nouveau désir, qu'il a appelé un esprit nouveau. Et une fois que vous aurez reçu ce nouveau désir, alors Dieu viendra en vous par sa parole. Et maintenant, dans le message, l'imitation du christianisme 57. Frère Branham a dit, Dieu a dû vous donner un cœur nouveau, pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça, c'est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle façon de penser. Puis, il vous donne une nouvelle façon de penser, oui, c'est exact. Ensuite il a dit, après ça, alors je vous donnerai un esprit nouveau. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. Après qu'il vous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit, alors je mettrai mon esprit. Et son esprit, une partie du logo, en vous, qui contrôle vos émotions. Encore une fois, Frère Branham nous a enseigné dans le message de voile intérieur 21 janvier 56 pp 37, qu'il y a une foi intellectuelle. Il y a une foi qui vient du cœur. Et nous lisons dans Ézéchiel que Dieu nous donne un cœur nouveau, qui estère une nouvelle compréhension. D'abord, puis il nous donne un esprit nouveau, qui estère un nouveau désir et enfin quand nous sommes prêts, il nous donne son esprit. Maintenant, lisons ceci par nous-mêmes. Dans Ézéchiel 36.26, nous lisons, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Maintenant, pour revenir à ce que Paul disait dans Romains 7.14. Martin Luther, le cinquième messager envoyé par Dieu à l'âge de l'Église sarde a dit dans son commentaire sur les Romains, « Car même si vous observez la loi extérieurement, avec des œuvres, par crainte de la punition ou par amour de la récompense, néanmoins, vous faites tout cela sans volonté ni plaisir, et sans amour pour la loi, mais plutôt avec réticence, sous la contrainte, et vous préféreriez faire autrement, si la loi n'était pas là. La conclusion est qu'au fond de votre cœur, vous détestez la loi. Qu'est-ce qui importe alors, que vous appreniez aux autres à n'aimer pas voler, si vous êtes un voleur dans l'âme, et que vous seriez heureux d'en être un extérieurement, si vous osiez? Bien sûr, le travail extérieur n'est pas loin derrière de tels hypocrites. Ainsi, vous enseignez aux autres, mais pas à vous-même. Et vous-même, Néhémie, savez pas ce que vous enseignez, et vous n'avez encore jamais bien compris la loi. Non, la loi amplifie le péché, comme il le dit au chapitre 5. Pour la raison que plus la loi exige ce que les hommes Néhémie peuvent pas faire, plus il haïsse la loi. Pour cette raison, il dit au chapitre 7, la loi est spirituelle. Qu'est ce que c'est? Si la loi était pour le corps, elle pourrait se satisfaire des œuvres, mais puisqu'elle est spirituelle, il, le corps, Néhémie peut plus la satisfaire, à moins que tout ce que vous faites, Néhémie, soit fait du fond du cœur. Mais un tel cœur n'est à donner que par l'Esprit de Dieu, qui rend l'homme égal à la loi, de sorte qu'il acquiert un désir pour la loi dans son cœur, et désormais Néhémie fait rien par crainte ou contrainte, mais fait tout d'un cœur bien disposé. Là, loi est donc spirituelle, qui sera aimée et accomplie avec un tel cœur spirituel, et exige un tel esprit. Là où l'esprit n'est pas dans le cœur, il y a du péché, et du mécontentement envers la loi, et de l'inimitié envers elle, bien que la loi soit bonne, juste et sainte. Comment une œuvre plaira-t-elle à Dieu si elle procède d'un cœur réticent et résistant? Accomplir la loi, cependant, c'est faire ses œuvres avec plaisir et amour, et vivre une vie pieuse et bonne de son propre chef, sans la contrainte de la loi. Ce plaisir et cet amour pour la loi sont mis dans le cœur par le Saint-Esprit, comme il le dit au chapitre 5. Mais le Saint-Esprit n'est à donner que dans, avec et par la foi en Jésus-Christ, et la foi n'est mise vient que par la parole de Dieu, qui prêche Christ, qu'il est le Fils de Dieu un homme, et qu'il est mort et ressuscité pour nous, comme il le dit dans les chapitres 3, 4 et 10. Puis Martin Luther dit, la foi n'est pas cette notion humaine et ce rêve que certains tiennent pour la foi. La raison pour laquelle les gens Néhémie peuvent pas accepter la foi seule, c'est parce qu'ils voient la foi comme quelque chose qu'elle n'est pas. Parce qu'ils voient qu'aucune amélioration de la vie et aucune bonne œuvre Néhémie la suivent, et qu'ils peuvent entendre et dire beaucoup de choses sur la foi, ils tombent dans l'erreur et disent, la foi Néhémie suffit pas. Il faut faire des œuvres pour être juste et être sauvé. Il nous dit ensuite que comme ils ne comprennent pas la foi, ils passent au mot croire, et disent je crois, pensant que c'est la foi. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils entendent l'évangile, ils tombent dans le même vieux piège et se forgent, par leur propre force, une idée dans leur cœur, qui dit, je crois. C'est cela qu'ils tiennent pour une vraie foi. Mais ce n'est qu'une imagination humaine et une idée qui jamais n'atteint les profondeurs du cœur, et donc rien n'en sort et aucune amélioration Néhémie la suit. Puis il dit, la foi est une confiance vivante et audacieuse dans la grâce de Dieu, si sûre et certaine qu'un homme mettrait sa vie en jeu 1000 fois. Car par la foi, l'homme devient sans péché et en vient prendre plaisir au commandement de Dieu. Ainsi il donne à Dieu l'honneur qui lui est dû et lui paie ce qu'il lui doit, mais il sert aussi l'homme volontiers, par tous les moyens possibles, et paie ainsi sa dette envers tous. La foi n'est donc pas une croyance. C'est sa révélation qu'il a en lui-même et par la grâce il nous la donne. Paul a dit que je vis selon la foi du Fils de Dieu. C'est donc sa foi, sa révélation en lui-même qui nous est à donner pour vivre. Dans le sermon de frère Branham, les choses qui doivent être 5 décembre 65 p. 74. Il nous dit, il y a trois personnes en vous. L'extérieur, c'est le corps. Vous avez 5 sens par lesquels vous contactez votre maison terrestre. L'intérieur, c'est un esprit. Il y a la 5 sens, l'amour et la conscience, et ainsi de suite que vous devez contacter. Mais à l'intérieur de cela, c'est l'âme. Rappelez-vous, la pluie tombe sur les justes et les injustes. La même pluie qui fera pousser un grain de blé, fait pousser également un grain de tronc. Voyez? Qu'est-ce ce que c'est? À l'intérieur de cette semence se trouve une nature, et cette nature se manifeste. Il peut se tenir dans le même champ, juste là avec la mauvaise herbe. L'herbe et le blé sont ensemble, se réjouissent tout autant. Sa tête baissée, elle est assoiffée. Quand la pluie arrive, le gratron peut crier aussi fort que le blé. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez? Dans la soif 19 septembre 65 p. 12 frère Branham dit, maintenant, nous découvrons, Dieu vous donne la tour de contrôle, afin de vous donner les choses dont vous avez besoin. Maintenant, la tour de contrôle, en vous, est ce qui vous dirige. Et cette soif dirige cette tour de contrôle, et vous dit ce dont vous avez besoin, spirituellement parlant. La tour de contrôle dans le corps, et dans l'âme aussi. Il y a une tour de contrôle dans le corps qui vous indique le besoin dont votre corps a besoin, et cela vous est rapporté par la soif. Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme, qui vous dit les choses spirituelles dont vous avez besoin, quelque chose dans votre esprit, et vous pouvez ainsi dire quel genre de vie vous contrôle. Quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, alors vous pouvez dire par cela quel genre de quelque chose qui est en vous, qui crée ce désir que vous avez. Vous voyez, il y a une certaine chose dont vous avez soif, et cela peut vous dire dans votre âme qu'elle est ce désir par la nature de la soif que vous avez. J'espère que vous pouvez comprendre cela. Vous voyez, c'est cette nature surnaturelle de Dieu en vous si vos désirs sont les choses de Dieu. Mais si vos désirs sont les choses du monde, alors c'est votre chair qui désire ces choses. L'autre tour de contrôle, qui se pourvoit elle-même. Le signe 8 mars 64p, 15 maintenant. Rappelez-vous, maintenant la mester la nature de l'esprit. Bien sûr. Les âmes qui sont en prison maintenant 10 novembre 63 mètres 1p, 18 maintenant. L'âme de l'homme n'est-elle pas le corps de l'homme? C'est-elle l'âme, vous voyez? Et l'âme est-elle quelque chose qui est-elle la nature de l'esprit? Et puis quand la nature d'un homme. Quand il a dit, nous sommes morts, l'écriture nous dit clairement que nous sommes morts, et que nos vies sont cachées en Dieu par Christ, scellées là par le Saint-Esprit. Maintenant, ce n'était pas que votre corps était mort. Ce n'était pas votre esprit qui était mort. C'était la nature de votre esprit qui était mort. Voyez? La nature, qui était l'âme. La nature de votre âme était Dieu, si vous êtes né de nouveau. Si ce n'était pas le cas, c'était du monde. Et de son sermon, et tu n'es mis le CEPA 15 août 65-0815P, 47 frère Branham dit, maintenant, à l'intérieur de cela se trouve un esprit, que vous devenez quand vous êtes né ci-dedans et que le souffle de vie est insufflé en vous. Cet esprit est de nature mondaine, parce qu'il n'a pas été donné par Dieu, mais il a été donné, permis par Dieu. Maintenant, vous l'avez compris? Car chaque enfant qui naît dans le monde naît dans le péché, façonné dans l'iniquité, vient au monde proférant des mensonges. C'est-ce vrai? Donc, cette personne à l'intérieur est un pécheur pour commencer. Mais maintenant, elle a 5 entrées, et ces 5 entrées, je n'ai mis sais pas si je peux les nommer maintenant. Tout d'abord, je sais que c'est la pensée, la conscience, l'amour, le choix. Non, la conscience, l'amour, le raisonnement, il y a 5 entrées l'esprit. Vous n'y pouvez pas penser avec votre corps. Vous devez penser avec votre esprit. Vous n'y pouvez pas avoir de conscience dans votre corps. Il n'a aucune faculté mentale. Votre corps n'en a pas. Donc, il vous faut penser avec votre esprit. Il faut raisonner. Vous n'y pouvez pas raisonner avec votre être physique, parce que le raisonnement n'y voit pas, n'y goûte. N'y sont pas touchés, n'y sont pas avec le nez et n'entend pas. Le raisonnement, c'est ce que vous pouvez faire dans votre esprit. Si vous dormez ou si vous en êtes sorti, votre corps est mort, mais votre esprit peut toujours raisonner. Il y a 5 sens qui contrôlent cet homme intérieur. Et ça. Or, ce dernier homme, qui est l'âme. Il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle, et c'est le libre arbitre, la libre volonté, de choisir ou de rejeter. La voix du signe 13 mars 64p, 55 La Bible dit qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et ce baptême est un baptême spirituel, le corps étant lavé. Ce n'est qu'une illustration, ou pour donner un signe que quelque chose à l'intérieur s'est passé. Mais c'est cette âme qui doit être baptisée du Saint-Esprit. C'est ce qui est éternel, entrant dans cette nature humaine et la changer, pour en faire un croyant. Frère Branham a dit dans Esther le lever du Fils, et en reprenant au paragraphe 72. Il dit, regardez une plante d'une petite semence dans la terre. Elle doit boire à sa fontaine les eaux qui se déversent d'en haut. Et, en buvant, elle s'élève vers lui, devenant de plus en plus semblable à la semence qui Esther allait en terre. Voyez, l'Église a suivi ce processus, par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant elle s'épanouit. Voyez, l'Esprit de Dieu est intervenu par ce processus. Et puis il dit aux pages 73 remarquez, vous êtes en route, croissant jusqu'à la plénitude de la résurrection, conduit par l'Esprit. Prions. C'est Grace Fellowship Tabernacle, avril 2023. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.